17h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Il va y avoir du sport sur Fadjet. Nous sommes le mercredi 24 octobre 2012 et il est 17h. Nous sommes ensemble pour une heure en direct pour parler de sport, mais pas que. Une journée ensoleillée dehors, mais aussi dans nos studios 47 rue Charles III, puisque aujourd'hui nous avons non pas 2 ni 12, mais 3 chroniqueurs pour cette belle émission. Commençons par le plus ancien. Sa sagesse n'a d'égal que ses caresses verbales, le bon mot au bon moment avec la culture qui va avec. Bonjour Kevin.
Salut Béranger, bonjour tout le monde.
Comment ça va ?
Eh ben ça va merveilleusement bien.
Super. Le second est tout nouveau, il est tout beau aussi. Il ne se résume pas qu'à son joli prénom, il va vous en apprendre beaucoup tout au long de l'émission. Bonjour Béranger.
Salut Béranger.
Comment ça va ?
Eh ben très bien, ravi d'être là pour ma première mission.
Et le dernier a un surnom de 3 lettres, mais il en faudrait beaucoup plus que 3 pour le décrire réellement. Humour et intelligence et le subtil mélange de Maxime. Salut Maxime.
Salut Béranger, salut tout le monde.
Comment ça va ?
Bon, bien.
Hein ?
C'est
ta dernière émission, est-ce que tu vas partir, il me semble ?
Pareil.
Donc quant à moi, comme l'a dit Béranger, je suis Béranger avec un A pour vous servir. Vous l'aurez deviné. Au programme du jour, nous aurons l'honneur de recevoir Anne-Marie. Nous avons l'honneur même, puisqu'elle est dans nos studios actuellement. Anne-Marie, capitaine de l'équipe féminine du Nancy Hockey Club. Bonjour Anne-Marie, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Béranger, bonjour tout le monde.
Comment ça va ?
Bah ça va très bien.
Hein ? Pas trop stressé pour cette première expérience radiophonique ?
Ça va.
Donc non, ça va aller, t'inquiète pas. Donc on parlera donc de hockey, donc c'est du hockey en gymnase. Et non pas.
On préfère dire en salle.
En quoi. Salle, en gymnase, oui, mon Dieu. Mais c'est pas sur glace.
Et sur gazon.
Et sur gazon, mais c'est pas sur glace en tout cas. Et les chroniques du jour seront Kevin.
Moi, je vais parler un petit peu, vu qu'on a Anne-Marie avec nous, du sport féminin.
Du sport féminin, Maxime.
Moi, ça n'a rien à voir avec le sport féminin, désolé, hein, vraiment. Mais c'est donc tous les événements sportifs du 20e et 21e siècle.
D'accord, tous les événements sportifs, les déceptions sportives.
Ça tombe bien,
ça va être long, on commence à 17h10.
On a une émission de quelques années à faire.
Et Béranger, ça sera.
Moi, sans aucun lien avec l'invité du jour, ça d'accord. sera sur les prothèses sportives.
Les prothèses sportives, en tout cas, d'accord, donc ça sera une belle émission. On part tout de suite en musique avant de passer à la première partie, une interview d'Anne-Marie et du Nancy Hockey Club avec le gymnase. Le gymnase, le hockey en salle, excuse-moi.
Il y arrivera également.
Et on écoute tout de suite Les Amis de ta femme avec Cayenne. À tout de suite sur Fadjet.
Encore de ma première femme, elle pas une pour le vache, qui en ma jeunesse, les principes de la pâche, sorti mon 635, et d'une balle au plein cœur, je l'ai tendu à être mort, les plus serrés sur le.
7h08, tout pile, il va y avoir du sport pendant une heure sur Fadjet. C'était Cayenne avec les amis de ta femme. Et on passe tout de suite à la première partie d'interview. Nous avons l'honneur et la grâce de recevoir la très jolie et très gentille Anne-Marie, qui est la capitaine de l'équipe féminine de hockey en salle du Nancy Hockey Club. Hein, ça, je l'ai bien dit.
Ça là, va, tu bien. L'as bien dit, ce coup-ci.
Hein, je vais me faire taper sur les doigts encore une fois.
Avec une crosse.
Avec une crosse, et ça, ça fait mal. On va commencer d'une façon assez large. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le hockey en salle, premièrement?
Ce qu'est le hockey en salle?
Ouais, qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout.
Bah,
c'est un sport, certainement.
Bah, hein, déjà, je pense, bien. Sinon je ne serais pas ici.
Oui.
Donc c'est un sport collectif, donc, tout d'abord. Ça peut être mixte, ou alors ça peut être des équipes filles et des équipes garçons.
D'accord, on peut jouer avec des filles dans sa propre équipe. Ça veut dire mixte.
Mixte, donc, ouais, c'est
non,
ça.
Mais je me remets en termes certains mots de la langue française, c'est un peu compliqué.
Ouais, d'accord. On peut jouer en équipe mixte.
D'accord.
Ça veut dire que tu as des garçons et des filles.
Très bien.
C'est un sport qui se joue avec une crosse.
Mm-hmm.
Donc c'est pas tout à fait la même crosse que hockey sur glace ou le floorball. C'est une crosse qui arrive jusqu'au nombril. Donc quand on joue, on est beaucoup sur les appuis. On est un peu courbé. Il faut un minimum d'endurance. Donc en salle, on joue sur un terrain qui fait la taille d'un terrain de hand.
Mm-hmm.
Donc, bon, on a deux buts qui sont plus, on va dire, qui font, je pense, la moitié d'un but de foot, un peu moins. Donc, ça joue 6 contre 6. Après, vous voulez que je dise quoi? Je peux parler un peu. Non, mais je peux.
Non, t'inquiète pas, comment se déroule une partie?
Comment se déroule une partie?
Comment se déroule combien de temps une partie dure?
Donc, voilà, ça dépend vraiment de si c'est un tournoi amical, si c'est en compétition. Donc ça peut vraiment durer de 10 minutes par mi-temps jusqu'à 45 minutes par mi-temps. Donc
d'accord, au niveau olympique, parce qu'on en voit souvent au JO.
Voilà, donc je sais pas si vous avez regardé, pendant les Jeux Olympiques, c'est quand même pas 10 minutes par mi-temps, c'est quand même bien plus long. Après, les filles, elles peuvent faire 35 minutes par mi-temps ou 40 minutes, tandis que les hommes en font 45, donc ça change vraiment. On pousse avec la crosse. La crosse, en fait, elle a un côté plat, elle a un côté courbé. Mmh. Donc, on joue avec le côté plat. Donc, en salle, on n'a pas vraiment le droit de faire des frappes. On pousse la balle et on a le droit de la lever que quand on vise le but, en fait, quand d'accord. on est dans le cercle. Donc, un but, on le met quand l'attaquant touche la balle dans le cercle et qu'elle aille dans le but.
D'accord, on est obligé de rentrer dans le cercle pour pouvoir marquer.
Vous êtes obligé de rentrer dans d'accord. le cercle, voilà. Donc ça augmente un peu la difficulté.
Mmh. C'est pas pour les gros bourrins qui veulent tirer du milieu de terrain.
Ouais, non, voilà.
Mais justement, il n'y a rien de bourrin, puisque c'est un sport où il n'y a pas de contact.
Voilà, c'est un sport très technique. Donc il y a quand même beaucoup de règles. C'est très très fair play. On peut faire des fautes, on n'a pas le droit de faire pied, on n'a pas le droit d'avoir un jeu trop physique, on n'a pas le droit de faire obstruction. Il y a beaucoup de façons de faire obstruction, on n'a vraiment pas le droit de le faire.
C'est absolument pas comme au hockey sur glace où genre tu peux te friter avec ton adversaire si jamais il t'a fait un mauvais coup, non ?
Non, ça arrive. Ça arrive vraiment.
T'as déjà essayé, non ? T'as déjà été confronté au problème ?
Non, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Surtout, on voit une légère différence entre les équipes de filles et les équipes de garçons. C'est-à-dire, les garçons sont quand même, la plupart du temps, ils ont un jeu beaucoup plus technique. Ils sont un peu plus fair-play que les filles. Quand on joue vraiment fille contre fille, ça peut être très hard, quoi, des fois. Vous voyez bien, bon, la forme des crosses, des fois, il y a les crosses qui s'accrochent et ça tire dans tous les sens, ça crie, ça pousse.
Ça se tire les cheveux.
Ça limite.
Et d'ailleurs, une particularité, quand il y a faute, il y a un petit corner. Est-ce que tu nous expliquer ce qu'est un petit corner ?
Alors, un petit corner, tu peux...
Ou un corner, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est petit corner.
Non, on dit petit corner, en fait. D'accord. On peut l'obtenir de trois façons. Soit il y a eu faute volontaire sur le terrain, ou alors il y a eu... une faute du défenseur dans le cercle qui n'a pas empêché un but. Parce que si le défenseur fait une faute dans le cercle qui empêche un but, c'est pénalty.
D'accord, directement.
Voilà. Ou alors, c'est quand un défenseur renvoie, par exemple, la balle derrière la ligne de fond. Mmh. Et il le fait exprès, quoi.
D'accord. Et donc, comment ça se déroule, un petit corner ?
Donc, ça se déroule. T'as les défenseurs qui vont se mettre d'un côté du but. Mmh. Donc, t'en as quatre plus le gardien. Et ensuite, les attaquants vont se positionner sur le cercle. Donc, il y en a quatre. Et puis, il y en a un qui tire, en fait. D'accord. Qui est sur la ligne de fond.
Et on sait
ça peut être à droite ou à gauche. On sait c'est lequel qui tire.
D'accord.
Donc après, sur signe de l'arbitre, il fait un tir sur celui qui reçoit la balle au niveau du cercle.
D'accord.
Donc on est obligé de recevoir la balle en dehors du cercle, de l'arrêter ou de faire la passe en gros à celui qui est à côté de toi.
Donc la frappe, elle se fait en dehors du cercle.
La frappe, elle non, en fait, celui qui frappe est juste à côté du but.
D'accord.
Enfin, on va dire là où le cercle croise la ligne de fond.
Ok.
Donc la balle est là. Ensuite, celui qui réceptionne, il est à peu près au milieu, en fait.
Donc, d'accord,
en
donc il est dans le... D'accord.
Donc ça part en diagonale, en fait, dans okay. le cercle.
On arrête la balle.
Voilà, on contrôle. Et après, c'est bon, tu peux avoir plusieurs combis, quoi. T'es pas forcément obligé de passer non plus la balle à celui qui est en face du but.
D'accord.
Tu peux... essayer de surprendre un peu l'adversaire et essayer autre chose.
Aussi, quoi.
Mais bon, voilà, c'est comme on va dire comme au foot, hein. Des fois, oui, hop, les corners, on les prend à deux. Ça marche pas à tous les coups.
Non, ça marche.
Donc, c'est pareil. Ouais, ça marche.
Donc, on a le petit corner comme sanction, mais c'est peut-être la moins pire. Est-ce qu'il y a d'autres sanctions ?
La moins pire, je vais pas dire moins pire. C'est quand même,
une sanction directe, en fait.
Ouais, c'est une sanction très très dangereuse parce que si on gère bien les petits corners, c'est un but garanti.
D'accord.
Quand on connaît le point faible du gardien et qu'on arrive vraiment à bien mettre la balle là où il faut, c'est un point garanti, quoi. Donc ça peut être très très dangereux.
Mais l'équipe n'est pas diminuée pour autant. Est-ce qu'il existe des cartons comme au football, par exemple ?
Ouais. On en a trois, en fait. Donc on a le carton vert, Donc c'est un avertissement. Mm-hmm. Ensuite, t'as le carton jaune. Tu peux sortir du terrain au moins 2 minutes. Mm-hmm. Donc après, ça peut durer 10 minutes. Donc c'est vraiment
sur l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide. Tu sors
voilà.
10 minutes.
Voilà. En fonction de la d'accord. gravité de ta faute.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Et ensuite, t'as le carton rouge et
c'est définitif.
Ouais, c'est définitif. D'accord. Tu joues plus. Voilà.
Et donc, si t'as 4 cartons verts, c'est possible d'avoir 4 cartons verts et ne pas être exclu
C'est possible de les collectionner.
C'est possible de les collectionner.
Non, ça, c'est pas
t'as le vert, moi je l'ai pas.
On peut pas avoir 4 avertissements.
Est-ce que c'est rare?
Parce que quand t'as 4 avertissements, t'es dehors déjà.
Ouais, t'as déjà le rouge, voilà. Avant. Ouais.
Et c'est comme au foot, on n'a pas 4 fois un carton jaune.
Ah non, on peut en avoir que 2 maximum, mais est-ce que là on peut en avoir 3 des cartons verts? Non, c'est pas.
Non, enfin, je pense pas. C'est du. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais.
Et il y a un nombre minimal de joueurs pour pouvoir jouer si par exemple il y a. 3 joueurs qui sont expulsés carton jaune. Est-ce qu'au bout d'un moment, parce qu'au fur et à mesure des cartons jaunes, il y aura de moins en moins de joueurs sur le terrain
Honnêtement, c'est une très bonne question parce que j'ai jamais vu ça. Enfin, je suis pas.
Bon, après, il faut y aller quand même.
Il faut vraiment y aller. En plus, nous, on joue pas vraiment dans ce genre de division. Quoi. Oui. Donc, même quand on participe au championnat. On n'a pas de carton.
Mais d'autant plus que le hockey donc sur gazon et en salle, c'est un sport qui est très très fair play. Et ouais. Donc la violence, tout ça, c'est limite de l'auto-arbitrage. Et les gens sont assez.
La violence est très réprimandée. Donc
ils sont tranquilles entre eux. Il y a pas.
Ouais, on est très très fair play. On cherche pas vraiment à faire des fautes. On cherche pas à tacler. On cherche pas à frapper trop fort avec la crosse. C'est vraiment pas notre but. C'est vraiment un sport. Technique, c'est un très vieux sport en fait. Je pense que ça contribue aussi énormément. C'est un, on va pas dire un gentleman sport hein, comme le cricket ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même un sport classique. Et
oui, parce qu'au JO, il date de 1928, aux JO d'Amsterdam.
Ouais, ça a été, voilà, exactement. Voilà, ça a été intégré aux
Jeux Olympiques. Si tu veux revenir avant, il y avait un jeune néerlandais, je sais plus comment il s'appelait, qui date du 17e siècle. Hein.
Peut-être.
Ressemblait à de la crosse.
Ce sont tout ce qui est historique, Kevin, je ne te crois, je pourrais jamais vérifier.
Même apparemment, on a même trouvé des traces en 1200 avant Jésus-Christ où il faisait déjà des sports à la crosse. Donc, je sais pas. Hein,
revenons en 2012.
Ça s'appelait pas ça du hockey, je pense.
Revenons en 2012, quelles sont les équipes nationales les plus intéressantes d'avoir joué ou celles qui remportent le plus de victoires Je sais qu'au JO, on a vu beaucoup l'Inde aussi qui est très, très représenté, puisque c'est un pays où il y a beaucoup de hockey sur gazon, ou de cricket aussi.
Ouais, les pays nationaux...
Est-ce que la France est forte, vraiment? Tu peux dire non. T'as le droit de dire non, franchement.
Elle est forte, oui, forcément. Enfin, on va dire, c'est quand même une sélection des meilleurs joueurs de France. Et on n'est pas, c'est comme dans tous les sports, mais comparé aux autres pays,
ça fait pas partie du top mondial.
Voilà, ça fait pas partie du top. On voit que c'est pas un sport qui est très développé. C'est pas une priorité chez nous, quoi. Quand on regarde aux Pays-Bas, c'est vraiment le deuxième sport. Limite, il est au même niveau que le foot, quasiment.
Ouais.
T'as une équipe, voire plusieurs équipes par ville. Même les villages, c'est tellement joué que forcément je suis moitié hollandaise, hein, donc. On est très fort. Après, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne.
Et est-ce que tu as des explications à ça? Pourquoi la France, c'est pas dans la tradition française d'avoir le hockey sur gazon ou en salle?
C'est enseigné à l'école? Est-ce que c'est une discipline sportive que vous faites dans les collèges, dans les lycées?
Ça pourrait être une raison aussi.
Ouais, aux Pays-Bas.
Moi j'ai quitté les Pays-Bas quand j'avais 14 ans, j'ai joué une fois au collège, c'est tout. Mais je pense que c'est pas pour ça que c'est connu. Je veux dire, c'est connu, c'est un sport connu comme le foot est connu, comme le tennis est connu.
Oui.
Je veux dire, au collège et au lycée, on joue pas forcément tout le temps au tennis non plus, pourtant c'est un sport très connu. Ça fait partie de la vie sportive, quoi. C'est quand on pense à faire un sport, c'est foot, hockey, tennis.
D'accord.
Après, il y a les autres sports, quoi.
Mais donc, il n'y a pas forcément d'explication, peut-être de la tradition historique, comme c'est un ancien sport. Et donc, on a fait un peu le tour sur le hockey en salle et sur gazon. On reviendra tout à l'heure sur le club de Nancy et ton équipe, à toi, l'équipe féminine du Nancy Hockey Club. Puisque puisque, chers amis, 17h20, tout bientôt, on part en musique et on revient tout de suite après avec Anne-Marie qui vient de nous parler donc de son équipe féminine du Nancy Hockey Club. On se retrouve tout de suite sur Fadjet.
Qu'une radio 17h23,
il va y avoir du sport sur Fadjet. C'était bloc party avec je ne sais pas comment on dit, banquet ou banquette.
Banquet
tout court, on n'est pas
banquet. Ça fait bien banquet, ça me donne envie de manger.
Ouais, ça fait une bonne blanquette, excusez-moi, mais en tout cas, c'était une très bonne blague, Kevin, bravo. Et on est toujours avec Anne-Marie, capitaine de l'équipe de hockey en salle du Nancy Hockey Club. J'ai tout bon là, je dis plus gymnase, promis juré, hein, franchement, je suis vraiment désolé. Ça me trouve le cœur, on va dire ça. Deuxième partie d'interview, on s'est attardé donc un peu sur le sport en lui-même. Donc hockey en salle qui se joue, on le rappelle pour nos auditeurs, en salle c'est à 6, mais sur gazon c'est à 11.
C'est exact.
Pas de bêtises. Et donc on va s'attaquer un peu au club de Nancy. Est-ce qu'il est assez récent ce club dans la région? Est-ce que c'est beaucoup pratiqué dans l'Est de la France?
Alors déjà, non, ce n'est pas beaucoup pratiqué dans l'Est de la France. Nous, notre club, apparemment, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il y a eu un club à Nancy de hockey sur gazon. Mm-hmm. On en a retrouvé des traces, je crois, sur papier.
On a fait des fouilles.
On a trouvé un gymnase enterré quelque part.
Mais j'en sais pas beaucoup plus, je peux pas vous en dire plus, ça c'est juste ce que j'ai entendu dire. Sinon, nous, notre club, il a été fondé en 94, donc ça fait pas très longtemps. Mm-hmm. Donc on va quand même bientôt fêter nos 20 ans. Donc pour l'instant, on doit être en moyenne par an une vingtaine de licenciés. Mm-hmm. Donc ça fait pas énorme. mais suffisamment pour faire une équipe masculine, une équipe féminine.
Parce que le club aussi est jumelé avec une autre équipe de la région parisienne.
C'est ça. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'équipes dans l'Est. Donc, du coup, pour participer au championnat, on s'est jumelé avec l'équipe du Blanc-Ménil. Donc, on participe au championnat de l'Île-de-France.
D'accord. Ça fait des sacrés déplacements. Mais...
Ça fait des sacrés déplacements, mais ça vaut le coup quand même parce que... Bon, c'est un sport, je pense que tout le monde qui est au club, on aime beaucoup le sport, on s'investit beaucoup. Et c'est vraiment un esprit convivial, un esprit familial. Mais ceux qui ont au moins un niveau moyen, on a envie d'être dans la compétition aussi. Donc on a envie de travailler pour quelque chose. Donc du coup, ça nous fait du bien quand même de faire les matchs en compétition.
Oui, ça motive.
Et d'avoir du résultat, voilà, ouais. Ça motive.
Donc le club créé en 94 par, on peut le citer, hein, Pierre Évrard, une vingtaine d'adhérents. Est-ce que majorité de femmes, majorité d'hommes, de jeunes, de vieux, de...
Majorité d'hommes, oui. Je dois dire. Si je me trompe pas, on doit être 6 ou 7 filles cette année. Donc ça varie quand même d'année en année. Hein. Donc ça faut le préciser. On a beaucoup d'étudiants. Sinon, les âges varient entre on va dire 18 à 35 ans à peu près.
Et est-ce qu'il y a un âge minimum en fait pour jouer au hockey, enfin, peut-être, je sais pas, au niveau de la technique ou
bah, en général au hockey il y a pas d'âge minimum, c'est à dire que dans beaucoup de villes où c'est plus développé, par exemple Lille ou tout ce qui est Île-de-France, t'as des équipes pour les enfants de 5-6 ans.
Ah, t'as des catégories t'as d'âge, je suppose, comme toute
tout sport collectif. Voilà, t'as des divisions, t'as des catégories d'âge, tandis que quand tu t'adhères au club de Nancy, pour l'instant, on n'a pas assez de demandes pour les enfants pour créer une équipe ou créer des entraînements. Et donc du coup c'est voilà, on est mixte par âge, et quand on rejoint le club, on est tout de suite en A, donc donc même si ça fait 2 semaines que tu joues, tu peux participer au championnat, donc ça crée des possibilités aussi pour les personnes qui connaissent pas trop le sport mais qui montent peut-être rapidement en niveau. Et
d'accord, on va parler un peu de l'équipe féminine parce qu'elle a 2 ans si je me trompe.
C'est ça.
Donc 2 ans et puis de bons résultats. Donc on va laisser les hommes de côté parce qu'on les avait reçus l'an dernier, il me semble. Je sais plus, il y avait Maxime, je crois, avec nous, si je me souviens bien. Donc toi, tu es capitaine depuis cette année ou l'an dernier, je ne sais pas, dis-moi.
Depuis cette année.
Depuis cette année. Donc vous êtes. Bravo. Sept filles. Comment ces filles se sont-elles retrouvées au club ? Est-ce que c'est toi qui les as ramenées, tirées par les cheveux ? Venez, c'est trop bien le hockey. Vous allez voir comment. Qu'est-ce qui pousse tes coéquipières à venir jouer ?
Je pense que ce qui leur pousse, c'est que c'est un sport collectif pour commencer, qui n'est pas très connu. Je pense que ça aide aussi, surtout ça aide les débutantes aussi à se mettre au sport. Mmh. Quand on arrive dans un club où il y a beaucoup de divisions, beaucoup de monde, alors qu'on vient de débuter, on n'a pas d'expérience du tout, des fois ça peut être intimidant et on n'ose pas trop, surtout à partir d'un certain âge. Quand on est enfant, c'est pas pareil, mais à partir d'un certain âge, on a des fois un peu peur d'adhérer à un club alors que tout le monde sait jouer, nous on est complètement nuls. Bon, là, au club, on n'est pas beaucoup, donc tout le monde est très bien accueilli. Tu peux participer aux entraînements quand tu veux, librement. On peut même prêter le matériel quand on n'a pas. Donc, je pense que ça facilite quand même la venue des filles.
C'est un peu l'esprit familial, en fait.
Voilà, c'est vraiment l'esprit familial. Et le fait que ce soit un sport fair-play aussi, mais où tu cours quand même beaucoup, je pense que ça aide quand même à faire venir les filles, parce que c'est pas très agressif comme sport. Pourtant, il y a beaucoup de déplacements, c'est très technique, ça développe l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition. Puis bon, faut pas oublier, pour moi, ce que j'aime bien dans ce sport-là, ça développe tous les muscles que les filles désirent développer, on va dire. Les cuisses, les fesses, les bras, les abdos.
La langue.
voilà, je pense que c'est un bon coup de publicité, ça.
Oui, exactement.
Venez au club.
Mais ça va faire venir tous les garçons aussi. Donc,
ça, c'est pas grave.
Et en tout cas, donc, deuxième année, j'ai entendu dire que vous aviez de bons résultats cette saison. Qu'en est-il ?
Cette saison, c'est-à-dire l'équipe des filles ?
Oui.
Bah, cette saison, oui, la saison vient de commencer.
On parle pas des garçons.
Voilà, la saison vient de commencer, donc on n'a pas trop de résultats encore.
D'accord, mais en tout cas.
L'année dernière, en tout cas, voilà, c'était pas trop mal comparé aux autres équipes de l'Île-de-France. On a terminé.
Wow. Oh, la mauvaise capitaine.
Voilà, moi, mon capitaine. Non, je veux dire, j'ai pas, honnêtement, je suis pas entre 1 et 10. Non, je crois qu'on a dû terminer 5e ou 6e.
D'accord, donc pour une première année, ce qui est pas mal.
Franchement, ouais, c'est pas mal. Je suis vraiment désolée de pas.
Non, mais c'est pas grave, on va te jeter.
J'ai pas beaucoup participé au championnat l'année dernière parce que j'étais pas dispo, mais. En tout cas, j'étais vraiment là dans l'esprit.
Dans l'esprit.
J'étais vraiment avec les filles. Ouais, j'ai fait un match, donc c'est tout.
Et donc, pour toutes les filles qui veulent se muscler les parties du corps, qui veulent partager un bon moment dans un sport convivial sans contact et où le fair play est présent, où est-ce qu'on peut venir vous voir s'entraîner ou même juste voir, en fait?
Alors, vous pouvez venir, même sans nous prévenir, aux entraînements. Donc, les lundis, on s'entraîne donc en extérieur au lycée Georges de la Tour de 19h à 20h30. Sinon, les mercredis et les vendredis, on s'entraîne au lycée Sifflet, donc à côté du pont des Fusillés. Mm-hmm. Donc les mercredis, c'est de 18h à 20h et les vendredis, de 20h à 22h. En sachant que pour les débutants, c'est mieux de venir les mercredis ou les lundis, parce que les vendredis, c'est... Ou alors, vous pouvez venir les vendredis aussi, mais les vendredis, c'est les entraînements pour le championnat.
D'accord.
Donc c'est des entraînements durs, on y va à fond pendant 2 heures. Il n'y a pas de pause. C'est vraiment.
Il n'y a pas de pause, faut venir si bien tu travailles. En tout cas, c'est familial, mais tu bosses.
Mais... tu bosses.
Pas de soucis. Donc, le lundi et vendredi. Ou mercredi, je ne sais
mercredi.
Plus. Mercredi. Donc, de toute façon, toutes les infos sur le site du Nancy Hockey Club qui est vraiment bien fait.
J'ai pris
toutes mes infos dessus. Et en tout cas, bravo au webmaster, je ne sais pas c'est qui, ou même sur Facebook, vous pouvez trouver directement.
N'oubliez pas d'aimer notre page.
Et oui, moi je l'ai aimé tout à l'heure. Ça fait 300 millions de likes en. En 3 jours, il me semble, je suis pas sûr.
Attends, les compteurs vont exploser après l'émission.
Ah, après l'émission, ouais, on va recruter, je pense.
Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Anne-Marie, peut-être?
Je pense que on a couvert à peu près tout. Donc,
on a essayé.
On a essayé.
Oui.
Tout ce que j'ai à dire, c'est si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Donc soit par le site, soit par Facebook. Donc il y a tous nos contacts. Puis si vous êtes curieux. Venez à l'entraînement. Voilà,
ouais.
C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la plupart des gens qui viennent faire un entraînement, ils reviennent après. Un entraînement ne suffit pas du tout pour se faire une image du hockey. Parce que déjà, le temps de savoir manier une crosse, ça ne vient pas en 2 heures. Donc, venez nombreux, venez essayer.
Et sinon, j'ai un petit jeu moi, que j'aime bien poser aux invités. Parce qu'on reçoit plein de sports. On a reçu du football américain, du sport de combat. Ça m'intéresse de venir faire du hockey en salle ou sur gazon. Donne-moi 5 adjectifs vraiment qui me donneraient envie de venir voir ou pratiquer.
5 adjectifs?
Ouais.
Ou 5 idées.
Des mots avec des syllabes. Tu cul de la bouche, ça fait des phrases. Et c'est...
Ce que je dirais, c'est loisir.
Loisir.
Compétition. Fair play.
Tu restes plus que 2. Musculation des parties fessiers.
Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, la muscu. Et les tournois amicaux.
Et tournois amicaux, donc convivialité aussi.
Parce que convivialité, ouais, les tournois amicaux, c'est vraiment quelque chose qu'on aime tous faire. La plupart du temps, c'est sur 2 jours. On part en Allemagne, au Luxembourg, à Paris.
Et il y a les troisièmes mi-temps.
Voilà, il y a les repas, on fait la fête. Voilà, c'est vraiment super
cool.
Du coup,
merci beaucoup d'être venu. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui.
Bah oui, pourquoi pas.
Ah, merci.
J'ai entraînement à 6h.
14h, n'importe quoi, 17h33, le mec il invente des trucs complètement hallucinés, tu vois. On repart en musique avec un morceau de Jamiroquai, s'appelle Love Philosophy, je sais pas, mon anglais est vraiment pourri, j'ai fait LEA en plus avec Anne-Marie, mais bon, c'était du passé ça. À tout de suite sur Fat Chat. 17h37, c'était Jamie Rockway avec la chanson Maxime qui s'appelle
Louvre Philosophie.
Louvre Philosophie, comme tu dis si bien. Bravo, Kevin, t'es prêt? 3, ouais. 2, 1.
Et aujourd'hui, vu que nous recevons la capitaine de l'équipe de hockey féminine de Nancy...
Qui ne se rappelle même pas du classement de son équipe de l'an dernier, je tenais honteux. À le souligner quand même, ça c'est quand même...
Merci, c'est honteux. Cool, c'est cool de le mentionner. Du coup.
Ça sera donc du hockey en gymnase.
Mais non, mais t'inquiète pas, on leur dira à la fin de l'émission. Aussi. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui de sport féminin. Et oui, donc le sport féminin, c'est connu et pourtant c'est assez mal reconnu, j'ai envie de dire. Parce que bon, il y a un imaginaire un peu traditionnel d'une personne lambda qui pourrait être autant masculine que féminine pourrait dire bah le sport féminin, c'est la gym, c'est la danse, c'est le ballet, c'est la vaisselle pour les mauvaises langues. Pour les mauvaises langues seulement, je précise.
Oh là 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 là.
Et pourtant, l'histoire du sport féminin montre le contraire, puisque on s'en rend peut-être plus compte à cause de la médiatisation un petit peu. Pas mal qui, on va dire pas mal qui.
Oui,
cette année. Je cherche le mot et j'ai pas trouvé. Bref, il y a de plus en plus de médiatisation sur le sport féminin de ces dernières années. On a par exemple le foot féminin depuis la Coupe du Monde 2011 de l'année dernière.
Oui.
Les JO féminins aussi qui ont fait un tabac cet été. Mais les sports féminins existent depuis bien avant nos aïeux et même nos avant-aïeux. Les Jeux Eréens, par exemple. Béranger, je sais que tu sais. Les Jeux Eréens, qu'est-ce que c'est?
Mais quel Béranger aussi? Mais précise aussi.
Béranger H.
Béranger H.
C'est la Grèce antique, en fait, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais pour les femmes. C'est
juste Béranger, juste parler dans le micro, ça serait cool. Merci.
Donc, le sport féminin, ça existe depuis moult temps, moult années, mais on en s'en fait peut-être de nos jours une image un petit peu, peut-être un peu machiste, peut-être avec pas mal de préjugés. La société juge que les femmes, je parle surtout au 19e siècle, ce sont des faibles femmes, hein, bien sûr, elles ne sont pas faites pour le sport. Il y a des interdictions qui ont été faites pour certains sports en raison pour des raisons médicales assez fallacieuses, par le corps fragile peut-être, une santé un peu frêle. Et puis, de toute façon, dans l'imaginaire de la société, la femme au foyer et les enfants seront bien gardés, n'est-ce pas?
Ça me fait rire, ça. Les préjugés comme ça.
Les préjugés, franchement, ça t'a fait rire quand même.
Ouais, oui, c'est clair.
Mais on peut être un homme qui fait de la gym ou de la danse, mais une femme qui fait de la boxe, ça le fait moins. Et pourtant, bien sûr, c'est faux. Hein, il faut le dire, c'est faux. C'est faux. Il y a un intérêt croissant des femmes jeunes et moins jeunes pour tous les sports collectifs, par exemple, avec l'essor du handball depuis un petit moment, l'essor du foot depuis un petit peu moins longtemps, l'essor du rugby aussi, qui est un grand essor chez les féminines. Donc le nombre de licenciés qui augmente tous les ans, qui représente à peu près 37% de sportifs en 2010, donc 37% de licenciés femmes, ce qui est pas mal.
Et sans progression.
Sans progression constante, il y a vraiment de plus en plus de licences, de licenciés eux qui s'inscrivent chaque année. Internationalement, à chaque JO, bah, il y a des épreuves qui s'ouvrent aux femmes de plus en plus. Là, ces derniers JO, il y avait plus de 90% d'épreuves qui étaient féminines. Bon, il y a bien sûr quelques épreuves qui sont
90%
encore,
des épreuves aux JO sont...
Enfin, il y a hommes et femmes.
D'accord, donc sont mixtes. Ah, c'est ça le mot,
c'est ça.
Bien joué,
sauf
merci,
que c'est
merci,
pas mixte, mais c'est pas ça. Il y a qu'une seule discipline mixte au JO. Est-ce que tu sais c'est laquelle?
Oui, c'est le tir au pistolet.
Eh ben non.
C'est le tir à l'arc.
Non.
Équitation. Bah,
c'est l'équitation.
C'est vrai?
C'est la seule discipline olympique qui est mixte.
Est-ce que tu peux monter une jument?
Est-ce qu'il existe des épreuves qui sont réservées aux femmes?
J'en ai pas trouvé. Ah si, il y en a deux. Si, excuse-moi, il y en a deux, mais je les ai pas notés, je les ai pas en tête.
D'accord.
Donc je te répondrai plus
on
tard.
On peut chercher.
Vous pouvez chercher les auditeurs si jamais ça vous intéresse. Bref, donc 90% d'épreuves féminines parmi toutes les épreuves. Il faut savoir qu'au départ des Jeux modernes, elles étaient exclues. Et la première participation des femmes aux JO, c'était en 1928. Donc les choses changent, c'est tant mieux. Il y a quelques sports où les femmes sont de plus en plus reconnues ces derniers temps, outre les sports traditionnels comme les skis, la gym, les sports équestres, la natation, l'athlétisme et quelques autres. Il y a par exemple le football. Donc le football féminin est officiellement reconnu par la FIFA depuis 71. Officieusement, ça existe depuis 1919, mais bon, la FIFA, c'est un petit peu des vieux dinosaures. Ils ont des idées un petit peu obtus, c'est reconnu seulement en 71. La France a toujours figuré dans le top 10 de la FIFA, mais elle a été popularisée surtout, je disais, l'année dernière avec la 4e place de la Coupe du Monde 2011. Il y a aussi un sport qui est en développement aussi, mais qui est assez connoté, c'est la boxe. Ça existe depuis longtemps, la boxe féminine, mais c'est surtout révélé au grand public par le film Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui date de 2005, je crois, un truc comme ça. Donc c'est médiatisé, mais c'est considéré comme beaucoup de femmes, comme un sport violent typiquement masculin. Chacun pourra se faire son idée. Le cyclisme aussi qui en essor, malgré la médiatisation de Jenny Longo, je pense que ça y était pour beaucoup. Il y a un Tour de France féminin qui existe, mais qui souffre trop de la comparaison avec le Tour de France masculin. Il a même été annulé l'année dernière pour des raisons économiques. D'accord. Parce que ça rapportait pas assez pour les organisateurs. Autre sport, le rugby. Donc je disais tout à l'heure, c'était un sport en plein essor, et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'équipes de femmes qui se montent un petit peu partout en France.
Surtout à Nancy-Séchamps aussi.
Voilà, par exemple. Donc le nombre de licenciés augmente d'année en année, et il y a à noter, ça j'en ai jamais entendu parler, il y a un tournoi des Six Nations féminines.
D'accord.
Et on n'en entend jamais parler.
Et pourquoi on n'entend pas parler, Kevin?
Eh ben écoute...
Parce que ça ne rapporte pas d'argent.
Vendeur.
Parce qu'on est dans un monde de machos, c'est
exactement.
Tout.
Exactement.
Voilà.
Il y a aussi, petite dédicace, au roller derby.
Oui.
Qui, pareil, ça, c'est le nombre de licenciés qui augmente, le nombre augmente au fur et à mesure des années, qui est une grosse vogue en ce moment, ces 3-4 dernières années. Et le hockey.
Donc, et le hockey.
On
et
a
le
l'exemple hockey. Aujourd'hui.
Exactement, avec Anne-Marie, voilà. Qui, rappelons-le, est la capitaine de l'équipe de Nancy.
Est-ce qu'on le rappelle encore une fois?
Ok, en salle.
En salle.
En salle, et pas en gymnase, hein, puisque. Hein.
Donc, y a, bon, bien sûr, c'est très bien tout ça, mais il y a quelques petites questions qu'on pourrait se poser encore. C'est est-ce que. Pour devenir populaire, le sport féminin a besoin d'une médiatisation, à la star donc du foot féminin, par exemple, l'année dernière, pour qu'il y ait un boom des licenciés. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que la médiatisation est vraiment importante pour que le sport féminin se développe encore plus?
Oui, un minimum, je pense que oui. Je pense qu'on l'a tous vu avec le foot féminin. À partir du moment où les matchs passaient à la télé, voilà, tout le monde regardait, que ce soit des garçons ou des filles.
Mais qu'est-ce qui a été le déclic de ça, en fait, de passer les matchs de foot féminin à la télé?
J'ai pas réussi à trouver de réponse vraiment satisfaisante. Ça peut être un multiple de facteurs, mais.
Je pense par rapport au football, en tout cas, c'est par rapport à la déception des hommes avec ce qui s'est passé en 2010, la Coupe du Monde 2010, l'équipe de France qui a fait un peu n'importe quoi, donc les supporters étaient un peu. Déçus de cette équipe-là, donc ils sont retournés vers l'équipe de France féminine, donc il y a peut-être une explication là-dessus.
Enfin, voir, je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. On fera peut-être une thématique d'ailleurs, il faudra y penser. Et que dire aussi des possibles dérives? Je citerai qu'un seul exemple pour ça, le CIO qui imposait pour le beach volley un bikini dont la largeur maximale était de 7 cm pour les volleyeuses. Et forcément.
La largeur?
La largeur, ouais.
7 de largeur?
Ça fait pas beaucoup.
Ah d'accord.
Et c'est
un string mon truc là.
Le CIO a posé ça, ouais.
D'accord.
Donc plus sexy, donc plus d'attirance, plus de vues. Ça a été abrogé seulement le 18 mars de cette année.
Oui.
Donc là maintenant, c'est abrogé par la Fédération internationale de volleyball. Ils autorisent le Bermuda aussi maintenant. Donc les volleyeuses peuvent choisir de garder le bikini ou le Bermuda.
Mais quelle avancée du féminisme, c'est dingue ça, hein, franchement. Ouais.
En tout cas, le sport féminin est en plein essor, et ça, c'est bien.
17h46, on part en musique, et tout à l'heure, Kevin, tu parlais donc de rugby, où il y avait des filles qui, de plus en plus de licenciées femmes, qui faisaient du rugby. Nous, on reçoit des petits mots aussi par Facebook sur des auditeurs et auditrices, et on fait une dédicace donc au cabinet de kinésithérapie avec Nassim qui doit nous écouter, et la petite Selim qui fait partie du Nancy Séchamps et qui s'est malheureusement fait des ligaments, qui s'est fait très mal au genou, en tout cas elle vient de se faire opérer. Une grosse pensée pour elle, et on lui dédicace.
Et salut à Nassim.
Salut Nassim, s'il nous écoute, en tout cas, on lui dédicace en tout cas la chanson Wolfmother, Joker and the Thief. We'll be right back.
the night.
Fadjet.
À Nancy, 94.2.
17h51, c'était Wolf Mover avec Joker and the Thief. Comment on dit? Je sais plus comment on dit. Thief. Joker et le voleur, en tout cas. C'est l'heure de la première, toute première chronique de Béranger, il me semble, hein, c'est ça?
Oui.
Donc, tu veux nous parler de prothèses, hein, ça donne envie.
De prothèses sportives destinées aux handicapés, à travers l'exemple d'Oscar Pistorius, puisque son cas nous intéresse.
Juste parle bien dans le micro, Béranger, pour qu'on t'entende bien.
Voilà. Alors, je vais tenter, lors de cette chronique, de répondre à la question est-ce que les prothèses d'Oscar Pistorius l'ont aidé, elle aide à améliorer ses capacités physiques. Alors, j'ai déjà fait une petite présentation de ces prothèses, qui sont composées de Kevlar, qui compose également les gilets pare-balles des policiers actuellement, de fibres de carbone et de fibres de verre, qui sont tous des matériaux composites vraiment à la pointe de la technologie. Donc alors, il y a deux grands principes à savoir pour ces prothèses. C'est à la fois, elles doivent être légères et créer un transfert d'énergie. Alors, bien sûr, ces prothèses sont réservées soit aux sportifs de haut niveau, soit aux grandes fortunes, puisqu'elles coûtent très cher, plus de 20 000 euros la paire.
Ou soit aux sportifs de haut niveau avec une grande fortune.
Aussi. Donc, les prothèses sportives, ainsi que celles que les prothèses normales, on va dire, sont composées de trois parties. Donc, l'emboîture, c'est la partie, la seule partie qui est faite sur mesure. Et c'est celle qui rattache, en fait, simplement la prothèse au moignon des handicapés.
Si joliment dit.
La seconde partie, qui est le manchon, est simplement une sorte de grosse chaussette qui permet d'éviter les frottements avec la peau. Et la troisième partie, c'est le pied prothétique. Et donc le pied prothétique, c'est la base de la prothèse. Et c'est vraiment la partie qui va nous intéresser dans le cas d'Oscar Pistorius. Donc dans son cas, les prothèses qui sont appelées cheetah, donc qui veut dire en anglais...
Tricherie. Cheat, non, c'est pas tricher.
Singe.
Guépard.
Guépard. Cheetah, ça veut dire guépard.
Moi, cheetah,
n'importe quel singe, il est complètement,
aussi, ouais.
Il est complètement halluciné. Il devait être sous, hein.
Vas-y, tu t'appellerais cheetah.
Donc, je pense en référence avec la vitesse d'Oscar Pistorius.
Oui.
J'en suis sûr, même. Donc, ces prothèses sont terminées par des fines lames courbes, d'où le surnom de Pistorius, The Blade Runner.
avec mon magnifique accent anglais.
Ouais, mais moi, tu fais pas de faute comme moi, c'est déjà ça. Hein.
La taille des lames donc dépendent de la taille du coureur. Donc elles sont complétées par un pad qui sont des crampons pour éviter de glisser. Donc le principe, il est simple. L'énergie est reçue lorsque l'athlète pose le talon sur la piste. Ça se déplace ensuite tout au long de la prothèse. Elle ressort au bout. En fait, c'est simplement un système de ressort. Alors, pour entrer dans le débat, on va dire, Oscar Pistorius est né en 86 à Pretoria. Il a été amputé des deux jambes à l'âge de seulement un an pour cause de malformations congénitales. Donc il s'est essayé à plusieurs sports, notamment le rugby. Alors ça peut être bizarre pour un...
Il a fait du rugby.
Il a fait du rugby, c'est vrai. Exactement.
D'accord. Oui. Bon, en même temps, il a des bras, donc il peut,
avant,
il peut faire du rugby.
Mais bon, courir sans jambes, c'est pas facile.
Exactement. c'est plus compliqué.
En donc c'est l'évidence même.
Finalement mis à l'athlétisme. Donc au JO d'Athènes, il termine 3e au 100 mètres et 1er au 200 mètres avec les non-valides. En 2007, il finit 2e à Rome. Et c'est là que commence la polémique, puisqu'il court avec des valides et surtout parce qu'il court plus vite,
que les valides.
Que les valides, voilà. Donc, ça va à l'encontre. Donc, l'IAF, qui est l'Association internationale de fédération d'athlétisme, fait une expertise qui conclut, qui va à l'encontre d'une loi, en fait, d'une loi qui stipule que toute aide technique lors d'une compétition est interdite. Alors, tout aurait pu s'arrêter là et Oscar Pistorius n'aurait plus couru avec les valides. Sauf que les Américains, comme d'habitude, s'en mêlent, font une contre-expertise et qui donne raison en fait à de l'athlète handicapé. Donc voilà.
Donc, il faut dire qu'il est handicapé à la base. Quoi. On peut pas donner une aide technique alors que voilà, à la base il a rien.
Logiquement. Et donc pour terminer cette palpitante saga, une toute dernière expertise conclut les prothèses d'Oscar Pistorius rendent plus d'énergie qu'en donne le muscle du coureur, donc 90% pour Oscar Pistorius contre 60% pour un athlète normal.
Valide.
On va dire.
Donc, valide.
Voilà. Valide.
Il faut dire valide.
Valide.
C'est normal.
Valide.
Non, mais c'est mieux. L'idée
donc,
était là.
Le comble dans cette histoire, c'est que Pistorius a fini derrière un Brésilien au JO de Londres aux 200 mètres,
ouais.
Et qu'il a porté plainte avec la délégation, qu'il a fait un recours avec la délégation sud-africaine contre cette première position du Brésilien en disant que ses prothèses n'étaient pas réglementaires et qu'elles étaient trop longues.
Il avait même, ce qu'on lui reproche. Il avait le même type de prothèse.
Voilà, le même type de prothèse pour tous.
D'accord,
les
coureurs. D'accord, c'était pas des roues, quoi. C'était vraiment le même type de prothèse.
Le même type de prothèse. Qui aurait été trop long. Voilà. Alors pour élargir un peu le sujet, il faut savoir que les prothèses existent pour tous les sports, le cyclisme, le surf, la natation, où on peut y attacher des palmes simples ou doubles. On peut penser à l'exemple de Philippe Croizon, je sais pas si vous avez entendu parler.
Qui a traversé la Manche.
Voilà, qui a fait le tour du monde, qui avait pour objectif de relier tous les continents entre eux à la nage.
Qui n'a plus de bras ni de jambes.
Qui n'a plus de bras ni de jambes, voilà.
Et il y a des prothèses pour le hockey. Un genre d'écrosse à la place des mains.
Ça, je sais pas exactement.
Non, mais ça, c'est ouf quand même, parce que c'est un sacré exploit que ce gaillard il a fait. Le gars, il a pas de membres, il a quand même traversé. Je sais, au moins, il a déjà fait la Manche.
Exploit énorme.
Ouais.
Exploit énorme.
Béranger, continue.
Et donc, pour terminer la chronique, faut savoir que les prothèses, moi j'ai pas parlé essentiellement des prothèses du bas du corps, parce qu'il existe des prothèses pour le haut du corps, pour les bras, mais c'est quelque chose qui est très, très, très technique et ça peut difficilement être appliqué
pour le sport.
Voilà. Voilà.
Très bien. Merci Béranger.
Et pas de rien.
Il est 17h58 et je pense que c'est l'heure de la chronique de Maxime qui va nous faire en une phrase. C'est parti.
J'ai combien de temps?
T'as 2 minutes. Non, mais il n'y aura pas de musique à la fin, c'est pas grave. Mais t'as 2 minutes. Tu vas nous parler donc de quelques grandes débâcles du sport au 20e et 21e siècle.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc point vraiment très succinct, sur quelques événements sportifs heureux et malheureux.
Surtout en rapport avec l'actualité, parce qu'Armstrong, on sait qu'il a été déchu de ses...
Exactement. Donc qui sont produits depuis le début du XXe siècle et qui ont marqué les esprits. Donc évidemment, quelques anecdotes prises parmi une foultitude d'événements. Donc j'en ai sélectionné 6, je vais essayer de les faire les 6 rapidement. Donc on a la première anecdote, je parle en chronologique, donc les JO à Berlin en 1936. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, un homme noir nommé Jesse Owens a créé la surprise en raflant 4 médailles d'or aux JO de Berlin lorsque le régime nazi n'était pas très loin de son paroxysme à ce moment-là. Donc en gros, ça fait un genre de pied de nez à Adolphe et toute sa troupe. Deuxième événement marquant, on a les JO de Rome en 1960, qui ont été marqués par la victoire de l'Éthiopien Abebe Bikila. Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose.
Rien du tout. À part Gebrselassie, tu sais.
Lors du marathon, qui au passage a battu un record du monde en 2h15 minutes 16 secondes. Donc, cette victoire, en fait, est doublement symbolique dans le sens où il remporte le marathon en Italie qui, 25 ans auparavant, envahissait son pays. Et en plus, c'est la consécration qui marque vraiment le début de l'hégémonie africaine sur les courses de fond, hein, parce que c'est pas les Finlandais généralement qui gagnent les marathons.
Plutôt dans le ski de fond.
Hein. Voilà, tout à fait. On a ensuite le septembre noir à Munich en 1972, où des terroristes palestiniens prennent en otage et tuent 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. Cet acte haineux retarde les aspirations nationales palestiniennes et déclenche une campagne de représailles israéliennes prolongée, au cours de laquelle plusieurs leaders palestiniens et au moins une victime totalement étrangère à la prise d'otage sont tués. Donc quatrième, on a le tournoi de Hambourg en 1993, donc pour le tennis. Donc la carrière de Monica